pourrait dire les vœux de Dieu pour nous, même si on sait que c'est pas des vœux, des souhaits, c'est des volontés et c'est même des promesses. Quand Dieu parle, il le fait systématiquement. Quand nous, on souhaite quelque chose, on espère que peut-être ça va se passer, mais on garantit rien du tout. Mais le Seigneur est tellement plus fort dans sa parole. Et combien cela réjouit nos cœurs. Je vous invite à revenir dans ce verset de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. C'est à l'occasion de l'inauguration du temple de Salomon. Salomon a donc fait une prière. Il y a des années qui se sont écoulées. Le temple a été bâti soigneusement selon l'ordre qu'il avait reçu de son père David. Et à la fin donc de ce beau chantier, l'inauguration, une prière qui vient du cœur, qui monte vers le ciel, et la réponse de Dieu à cette prière. On a parlé de ses souhaits, donc il y avait Dieu nous promet l'amour, la sainteté, Dieu nous promet la santé. Regardez ce qu'il est dit au verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, voilà les promesses. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. » Amen. Et la semaine dernière, on a insisté donc sur la fin, sur ces trois promesses qui sont là. L'exaucement. Dieu nous écoute du ciel. Dieu est attentionné envers nous. Dieu veut que nous vivions dans la sainteté. Dieu veut que nous marchions de progrès en progrès. Et puis, Dieu désire guérir autant nos vies que notre pays. Et nous voulons être des instruments pour cette guérison-là, pour notre pays. Est-ce qu'il en a besoin? Bon, regardez les infos pendant 5 minutes et vous comprendrez que notre pays a besoin d'être guéri. Est-ce que notre pays peut être guéri? Parce que là, par contre, en bon français, parfois on peut en douter, en voyant tout ce qui ne va pas. Mais quand on a la foi en Dieu et quand on a la foi dans la promesse de Dieu, je guérirai son pays, c'est Dieu qui le dit. Et il veut le faire au travers de nous. Mais il faut accepter certaines conditions. Vous avez remarqué, il y a des versets dans la Bible où il y a des si. C'est pas des si qui mettent un doute, mais ce sont des si de conditions. Si et seulement si. Et Dieu a les plus grandes et les plus merveilleuses promesses pour chacun d'entre nous qui peuvent changer, transformer nos vies encore dans cette année 2020. Mais il y a un si. Il y a des conditions. Et c'est la première partie du verset. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Ce matin, je voudrais attirer notre attention sur le fait que le problème, c'est peut-être pas la prière en elle-même. Même si ça fait partie du verset, et on va en fait ne faire que parler de la prière ce matin. Mais c'est pas la prière qui est un problème pour l'homme, parce que sur la terre, il y a beaucoup de prières qui sont élevées vers Dieu, ou vers quelqu'un. N'est-ce pas? Quand on parle avec les gens, il y en a qui, des fois, qui prient, ils savent pas trop qui, mais ils prient. Des fois, la religion demande de prier, de faire cette prière précisément. Et sur la terre, des centaines de milliers, des milliards même d'êtres humains prient. Sauf que, est-ce que ces prières sont exaucées des cieux, entendues du ciel? Est-ce que ce sont des prières qui amènent la bénédiction? Est-ce que ce sont des prières qui ouvrent le ciel? Dieu promet, je l'exaucerai des cieux, mon ciel va s'ouvrir sur la prière qui va monter dans ce lieu. Et on va voir que c'est pas n'importe quelle prière, c'est une prière qui est conditionnée. Alors, en fait, c'est ça, on a tous une manière de prier, mais quelle est la bonne manière? Quelle est cette manière de prier qui fait que Dieu va exaucer? Quelle est cette prière qui ouvre le ciel? Je crois que ça, c'est une bonne chose dans laquelle on peut rentrer. S'il y a bien une résolution qu'on peut prendre, c'est de dire, Seigneur, je veux prier comme toi, tu veux l'entendre. Et je crois que le Seigneur va bénir celui qui agit de cette manière. Trois choses donc. Dieu exauce la prière profonde. Dieu exauce la prière pénétrante. Dieu exauce la prière puissante. Amen. Alors, quand tu étudies déjà le verbe prier, pour nous, prier, c'est, je sais pas, parler à Dieu, tout simplement. Mais ce mot qui est employé ici, c'est pas tout à fait ça. C'est en fait intercéder qu'il est dit. Littéralement, c'est quelqu'un qui se met entre deux personnes, entre deux choses. Jésus, par exemple, est notre intercesseur auprès du Père. Si nous voulons que nos prières soient efficaces, on pourrait faire tous nos efforts, les plus belles prières, les plus belles expressions, reprendre des versets de la Bible, etc. Mais s'il n'y avait pas Jésus, l'intercesseur, ça ne servira à rien. Parce que c'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Notre prière peut être entendue du Père parce que Jésus, il est l'intercesseur parfait. Mais on a besoin de nous, certaines fois, d'intercéder, c'est-à-dire de nous placer dans cette position entre deux choses. Alors on va préciser tout cela. Mais déjà, pensez à cette réalité, l'intercesseur, il vient se placer entre deux choses précises. On revient au verset 11. « Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » J'exauce ta prière. Salomon vient de vivre un temps particulier, un temps fort public, l'inauguration, mais il s'est pas contenté de ça. On voit que cet homme, à ce moment-là en tout cas, il avait cette foi, cette ferveur pour le Seigneur. Il était là. Juste après avoir cherché la face de Dieu, Dieu lui répond de manière claire et précise. Et vous remarquerez que dans la réponse de Dieu, que le Seigneur emploie les termes que lui, il a dit dans sa prière, juste avant. Dieu n'a pas inventé des choses. On sait qu'il est le créateur de tout, hein. Et sûrement qu'il a inspiré la prière de Salomon dans le chapitre 6. Mais dans les réponses de Dieu, Dieu n'a juste repris ce que son enfant a demandé. Est-ce que le Père va nous donner un serpent si on lui demande du pain? Ou une pierre? Ou des scorpions? Non. Le Père nous donne selon ce que nous demandons, dans sa volonté. Alors, on commence avec cette prière profonde, une prière qui est faite avec humilité. Notre prière doit être profonde. Notre prière doit aller jusqu'au tréfond de notre âme. Et on doit laisser le champ libre au Saint-Esprit. Quand on prie, quand on veut que notre prière soit entendue du ciel, on doit laisser le champ libre au Saint-Esprit pour aller en profondeur dans nos cœurs. Il y a un chant de Luc Dumont qui m'est revenu à ce moment-là, qui dit « Dans mon tiroir secret, dis-moi ce que tu vois, ce qui m'éloigne de toi. » On a tous un tiroir secret quelque part. Vous savez, des fois on voit les films, les espions ils cachent des informations très précieuses dans un double fond du tiroir quelque part. Il faut toute une astuce pour pouvoir débloquer. Et dans notre cœur c'est pareil, hein. Il y a des coins de notre cœur où on veut pas trop que Dieu y aille jeter un coup d'œil. On veut les garder pour soi. Mais la prière profonde, c'est une prière d'humilité qui dit « Seigneur, oui, je veux mettre mon cœur à découvert devant toi totalement. Et en ce début d'année, s'il y avait quelque chose dans mon cœur qui ne va pas, Seigneur, montre-le-moi. Que ton esprit pénètre en profondeur pour me révéler ce qui ne va pas. » La prière profonde, c'est cette prière qui vient justement se placer entre la faveur de Dieu et notre cœur. Souvent, il y a quelque chose qui bloque la faveur de Dieu pour qu'elle puisse aller jusque dans notre cœur. C'est quoi? Qu'est-ce qui bloque les hommes de la présence de Dieu et de la faveur de Dieu? Le péché. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Et celui qui a l'humilité, il va venir se placer entre son péché. Ça veut dire qu'il faut accepter qu'il y a du péché. Il faut accepter de reconnaître qu'il y a du péché. Mais de se dire à un moment donné, ça suffit. Je veux prendre position par rapport à mon péché. Je veux pas me laisser me priver de la présence de Dieu, de la faveur de Dieu sur ma vie. On peut laisser dans nos vies des choses qui ne vont pas et se dire, c'est pas grave. On en a parlé déjà la semaine dernière, mais ça a des conséquences terribles que de laisser faire les petites choses. Oh, qu'est-ce que c'est deux petites dents de serpent avec quelques gouttes de poison? Qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose. On va le laisser faire. Vous avez tous un animal de compagnie, un serpent, n'est-ce pas? Vous voulez tous savoir ça? Non, personne n'en veut. Enfin, la plupart en tout cas n'en veulent pas. Parce qu'on sait que même si c'est tout petit, ça peut faire beaucoup de mal. Quelques gouttes de poison peuvent tuer un homme même. Et c'est tellement important de veiller sur les petites choses dans nos vies. La prière de d'humilité, déjà, c'est de reconnaître dans ce passage que les promesses de Dieu sont dans un cadre d'unité. Il n'est pas dit « si mon enfant s'humilie », il est dit « si mon peuple s'humilie ». Des fois, on prend certaines promesses de la Bible et on se les applique juste à nos vies, à nous. Et la tendance de notre époque aujourd'hui, c'est de réfléchir tout notre intérêt à nous. Mais on sait très bien que Dieu nous invite à avoir cette compréhension, l'intérêt de son peuple. Je suis dans le peuple de Dieu. Je suis un individu, mais j'ai des frères et j'ai des sœurs à mes côtés. Et je crois que cette parole, cette bénédiction, ces promesses, ces volontés de Dieu pour ma vie ne s'accompliront que si je fais partie du peuple de Dieu. Je ne peux pas vivre les promesses de Dieu avec autant de force quand je suis tout seul dans ma chambre. Même si Dieu fait grâce quand même, hein. Mais si je veux que ça soit décuplé, que les effets de la puissance de Dieu se manifestent dans ma vie, je dois faire partie intégrante du peuple de Dieu. Si mon peuple s'humilie, une prière qui s'humilie, une prière qui fléchit le genou, une prière qui laisse l'action de Dieu se faire dans son cœur, eh bien, à ce moment-là, le pays va être guéri. À ce moment-là, la prière va être exaucée. Vous savez combien l'égoïsme et l'égocentrisme, qui sont le contraire de l'humilité, empêchent que Dieu agisse envers nous. N'est-ce pas? Et combien nous avons besoin de laisser le Seigneur nous montrer dans les choix que nous faisons ce qui est de la part de l'égoïsme et ce qui est de la part de l'altruisme, cette recherche du bonheur des autres, et puis aussi de la foi, tout simplement, cette recherche du plaisir de Dieu. Mais quand on reste bloqué dans notre orgueil, ça peut avoir des conséquences terribles. Quand on refuse l'humilité, en 1986, c'était le 31 août 1986, deux navires russes sont entrés en collision dans la mer Noire, près de la Russie, près des côtes de la Russie. Il y a eu 400 morts dans cette collision. Et le problème, parce que c'était la mer Noire, les eaux glacées, un moment donné, avec un transport, je crois qu'il y avait 1200 personnes, une brèche qui a été faite de 50 mètres dans un bateau, parce que l'autre lui a foncé dedans. Mais le problème, c'est pas l'accident en soi. Le problème, c'est quand ils ont fait l'enquête. Pourquoi est-ce qu'il y a eu l'accident? Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un accident, il y a une enquête. Eh bien, en fait, le problème, c'est que il y a eu de l'entêtement humain. Chaque capitaine, ils étaient au courant de la présence de l'autre bateau. Ils savaient qu'à un moment donné, ils devaient se croiser. Ils avaient le plan de route qui se croisait. Mais il y en a un, quand il a vu ça, il s'est dit « Bon, mais l'autre, il va faire ce qu'il faut. » Et l'autre capitaine, il a dit pareil. À un moment donné, ils vont tourner. Et il y en a un qui est parti dans sa chambre et l'autre qui est resté là, mais qui n'a rien changé. C'est bête, vous êtes d'accord? Ils savaient qu'ils allaient se croiser, mais ils ont dit « Bon, je compte sur la bonne volonté de l'autre. Moi, je ne vais pas changer mon cap. » L'entêtement, pas de remise en question personnelle, pas de réalisation de combien c'est important, je suis quand même responsable, il y a des milliers de personnes sur le bateau, ça serait intéressant de faire quelque chose. Et le résultat, 400 morts. Et je me demande comment ces capitaines, ont pu continuer à vivre avec cette pensée-là. Je pense que ça n'a pas dû être facile. Et il n'y a que la grâce de Dieu qui peut venir enlever la culpabilité. Mais ça nous montre que quand on choisit pas la voie de l'humilité, il peut y avoir des graves conséquences pour nous, pour nos vies, mais aussi pour les autres qui dépendent de nous. Et c'est pour ça que c'est important de faire monter vers le Seigneur une prière d'humilité. Regardez dans 2 Chroniques 34, verset 27. On va rester dans le livre des Chroniques. Au verset 27 du chapitre 34, c'est un roi, un jeune roi. Alors, je vais aller avec vous. 2 Chroniques 34 et le verset 27. Un jeune roi qui a ordonné de faire des travaux dans le temple, de restaurer le temple. Et à un moment donné, ils ont trouvé un livre. En fait, c'était le livre de la loi de Moïse. Ils ont lu le livre à ce roi avec les promesses, les grâces, les bénédictions et avec les mises en avertissement les malédictions aussi qui sont dans ce livre. Et ce roi a été touché par ce qu'il a lu. Alors, 34, verset 27, voilà ce que Dieu dit à cet homme, « Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. » Voici, je te recueillerai auprès de tes pères, et tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Amen. Un homme qui s'est humilié. Et vous avez remarqué comment s'est précisé cette humilité, cette humiliation personnelle? Il a eu le cœur touché. Un cœur qui est touché par ce qui se passe, par ce que Dieu dit. Un cœur qui est ému. Un cœur qui n'est pas indifférent, un cœur qui n'est pas hyper stoïque. Vous savez, des fois, on est trop stoïque. Il y a des choses incroyables à la télé, on dit il y a des centaines de morts, et nous, on est là. Ah ouais. Et on passe à la suite, à la nouvelle prochaine. Non, un cœur qui est touché. Un cœur humble, c'est un cœur qui se laisse toucher par les choses, bien sûr, qui touchent le cœur de Dieu. Par les choses qui sont d'importance capitale. Et cet homme a compris que tous les malheurs qu'il avait eus dans le passé sur son royaume, sur les ancêtres, ses ancêtres, étaient dus en fait qu'ils avaient mis de côté la loi de Dieu. Hein, son cœur a été touché, brisé par cette pensée qu'ils ont fait tout le contraire de ce que Dieu demandait et que du coup le résultat c'est qu'il y avait la malédiction sur le pays. Mais regardez comment cet homme s'humilie. Se laisse toucher, écoute la parole, il est attentif, il regarde la parole, il regarde les temps dans lesquels il vit, il fait le lien. Et puis, il est dit, Dieu lui dit, tu seras recueilli en paix. Toi, tu vas pas connaître ces temps de malheur. Toi, tu vas pas connaître cette malédiction. Tu seras préservé. Il y aura une grâce sur ta vie parce que tu t'es humilié. Ça vaut la peine, non? De s'humilier. Oh, on sait que notre monde va tomber à un moment donné sous le jugement. L'ère de la grâce va s'arrêter, ça sera l'ère du jugement qui va commencer. Mais plaise à Dieu qu'on n'y soit pas. Et on veut s'humilier, on veut dire Seigneur, je veux avoir cette prière profonde. Cette prière qui reconnaît mes torts. Et Dieu va nous faire grâce, Dieu va nous épargner de la colère. Dieu va nous faire passer vers son ciel, nous enlever vers lui et nous accueillir dans sa demeure céleste. Il y a cette question qui pourrait se poser, parce que quand on lit la suite du chapitre, donc on revient à chapitre 7, verset 13, on pourrait se poser la question quand même, c'est un peu la faute de Dieu. Parce qu'il est dit, quand je fermerai le ciel, quand il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. À ce moment-là, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, je le guérirai. Donc c'est Dieu qui envoie tout ça. Ça c'est un raccourci. Vous savez que d'ailleurs dans les termes hébreux c'est une façon de parler, mais quand on étudie la parole on voit que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas Dieu qui décide, allez aujourd'hui je m'ennuie, je vais envoyer une peste. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne torture pas les gens. Dieu n'envoie pas le mal. D'ailleurs c'est pas lui qui envoie les maladies, on sait très bien que c'est le diable qui le fait. Dieu peut permettre parfois certaines choses, mais dans certaines conditions. Quand on lit le chapitre 6, quand on lit la prière de Salomon qui a précédé ce qu'on est en train de parler, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs fois où il est dit « quand ?» Mais là, c'est plus net. Verset 24, chapitre 6, verset 24. « Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi. » Ça fait réfléchir. Verset 26. « Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi. » Bon, c'est clair. Verset 28. « Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si tout le peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur. » Quand ils pêcheront contre toi, au verset 36, car il n'y a aucun homme qui pêche. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi. Alors à ce moment-là, ils prieront et tu les exauceras. Mais vous voyez qu'à chaque fois, il est précisé parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont fait le mal, parce qu'ils ont abandonné, parce qu'ils ont laissé tomber les paroles à terre. Oh, moi j'aime cet exemple de Samuel qui ne laissait tomber aucune parole de Dieu à terre. Est-ce que vous vous souvenez de toutes les prédications que vous avez entendues? Non, moi non plus. Mais il y a quand même des choses qui nous marquent quand, au travers d'une prédication, ou au travers d'une discussion, au travers de partage avec des frères, un témoignage, Dieu nous parle. Et il y a des choses qui restent gravées dans nos cœurs. Est-ce que vous vous souvenez quand Dieu vous a parlé de manière personnelle et forte et précise? Ça, on s'en souvient. Parce que ça va jusqu'au fond. Mais le Seigneur nous invite à faire monter vers lui cette prière d'humilité. Humilions-nous sous la main puissante de Dieu et il nous élèvera, nous dit la parole. Laissons l'Esprit de Dieu sonder notre cœur en profondeur et le Seigneur va bénir son peuple. C'est une prière aussi pénétrante. Une prière qui recherche la face de Dieu. On peut prier, comme on le disait, mais prier sans chercher la face de Dieu. Et ça sert à rien. N'est-ce pas? Je peux vous dire de faire telle prière, de réciter moi 10 Notre Père. Mais on sait très bien que c'est pas utile, hein. Ne multipliez pas de vaines paroles. C'est dit juste avant le Notre Père. Non, par contre, le Seigneur veut qu'on prie en cherchant sa face. Qu'il y ait quelque chose au fond de notre cœur qui nous pousse à vouloir davantage. Une fois qu'on a réglé le problème du péché dans notre vie, on veut aller plus loin et on veut que les plans de Dieu pour nous puissent pénétrer en nous. C'est pour ça que je parle d'une prière pénétrante. Nous, on rentre dans la présence de Dieu, mais Dieu injecte sa volonté dans notre cœur. On veut se placer, se mettre, intercéder, cette position, s'interposer entre notre cœur qui est souvent plein de mauvaises pensées, plein de mauvaises volontés, de mauvais désirs, et puis la volonté de Dieu. Et on veut dire, Seigneur, que ta volonté vienne, que ta volonté rentre dans mon cœur, que ta volonté me submerge, afin que je sache ce que tu désires pour moi. Vous savez combien notre cœur est souvent influencé par les choses terrestres. Vous le voyez, n'est-ce pas? Ou il n'y a que moi qui ai ce combat? Non, je sais qu'on est tous des êtres humains. Et on est tellement facilement submergé par ce qui se passe autour de nous, par les choses que nos yeux voient, qu'on a besoin de chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, ce n'est pas une option. Ah, pour vivre des choses belles avec ce Seigneur, je vais chercher la face de Dieu. Oui, c'est vrai, mais j'en ai besoin. Si je veux vivre spirituellement, je dois chercher la face de Dieu. La foi qui ne cherche pas la face de Dieu, c'est une foi qui va être faible, qui va faillir, qui va tomber. Mais la foi qui cherche le Seigneur, qui a cette ferveur, qui a cette envie de toujours découvrir plus dans la présence de Dieu, eh bien c'est une foi qui va aller en grandissant, qui va augmenter. Les disciples sont venus voir Jésus un jour, ils ont dit « Seigneur, augmente notre foi !» Mais quand on reconnaît notre petitesse, on sait combien on en a besoin, que notre foi augmente. Alors que on était dans le temps de louange, j'ai eu à cœur de lire avec vous ce psaume, le psaume 34, qui nous montre combien c'est important de chercher la face de Dieu et toutes les promesses qui sont attachées à cette réalité. Alors, psaume 34, un psaume de David. Une fois de plus, on voit combien David, il a vécu de belles choses, hein. Et il a compris surtout des choses importantes. Au verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » J'ai cherché l'Éternel. Une prière qui cherche Dieu, une prière qui prend du temps pour chercher Dieu et il m'a répondu. Il nous donne une réponse. Parfois, les gens sont là, oh, mais Dieu me parle pas, Dieu ne répond pas à mes prières. Oui, mais est-ce que tu le cherches? Parce que si tu pries une minute tous les jours, je suis pas persuadé que tu laisses à Dieu l'opportunité de te parler et que tu laisses ton temps être submergé par toutes les activités de ce monde. À un moment donné, on doit dire stop. On doit faire taire tous les bruits extérieurs et dire « Seigneur, parle à mon cœur. » Seigneur, je veux venir dans ta présence. Je veux pas mettre de timing. Des fois, on est là. Moi, je prie 30 minutes. Moi, je prie une heure. Moi, je prie deux heures. tant mieux pour ceux qui prient longtemps, tant pis, ou Dieu fait grâce quand même à ceux qui prient 10 minutes. Mais quelqu'un qui prie 10 minutes en cherchant la face de Dieu, mais peut-être qu'il va être plus béni que celui qui prie 2 heures, mais qui laisse ses pensées vagabonder dans tous les sens. Mais des fois, ça prend du temps, par contre. Et c'est mieux de pas mettre de menthe, de pas dire, moi, je vais prendre 30 minutes, mais au bout de 30 minutes, j'arrête. Des fois, c'est bien de dire, Seigneur, je te laisse le champ libre. Parle-moi, réponds-moi. Combien, même encore aujourd'hui, les croyants se laissent piégés par les frayeurs. N'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui nous effraient? On a tous des choses qui nous effraient. On est tous différents, hein? Mais on ne veut pas laisser la frayeur nous dominer. On veut chercher la face de Dieu parce qu'il nous délivrera de toutes nos frayeurs. C'est sa parole. Mais ça, il le fait que quand on cherche l'Éternel. Or, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Regardez au verset 11, les lionceaux éprouvent la 17 et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et on pourrait multiplier les exemples dans les psaumes aussi, c'est un thème qui revient tellement souvent, de chercher la face de Dieu. Il y avait un pasteur anglophone, britannique, il racontait une fois qu'il était avec un pasteur plus âgé, qui respectait beaucoup, qui était comme un modèle pour lui, comme son mentor. Et un matin, donc, il était assis avec lui sur la terrasse, il contemplait un beau paysage qu'ils avaient devant eux. Et à ce moment-là, lui qui était tout jeune, tout inexpérimenté par rapport au ministère, il voulait poser une question, il voulait avoir un conseil de la part de ce pasteur plus expérimenté. Donc, il lui demande, est-ce qu'un homme peut être sûr qu'à l'heure d'un choix difficile, Dieu va le diriger? Vous êtes déjà posé cette question? Est-ce qu'il peut se sentir en sécurité d'être gardé d'un faux pas? Et donc le pasteur lui a dit, le pasteur plus ancien, il lui a dit, je suis sûr que c'est possible. C'est vrai, c'est comme ça que ça marche. Mais seulement, encore ainsi, seulement s'il veut donner du temps à Dieu. Vous voulez être préservé de vous tromper dans vos décisions, donnez du temps à Dieu. Hier, avec les ados, on parlait de ça, de comment savoir quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Et au final, on est arrivé à cette conclusion, il faut être près du Seigneur. Comment on est près du Seigneur? On passe du temps devant lui. Devant lui, en lisant sa parole, en le priant, en laissant ce qu'on a entendu travailler notre cœur. Que la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite, vienne jusque dans notre cœur et que nos yeux soient éclairés par rapport aux choses que nous devons faire. Qui, ce matin, voudrait avancer sans connaître ce que Dieu veut pour lui? Qui le voudrait? Personne. Alors, bien sûr qu'on ne connaît pas tout dans les détails, hein. Des fois, il vaut mieux pas tout connaître, parce que quand on voit ce que Dieu voudrait nous faire traverser comme épreuve, on dirait « Non, Seigneur, je veux pas ». Mais il le sait très bien pourquoi il nous fait passer par là, pour nous faire grandir, pour nous faire aller plus haut avec lui. Que la volonté de Dieu puisse nous remplir. Je voudrais terminer avec cette troisième prière, qualité de prière. Après cette prière profonde où on laisse l'humilité guider notre vie, après cette prière pénétrante où on recherche la face de Dieu, ça termine ce verset. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Notre prière doit être puissante dans le sens où elle doit avoir des effets puissants dans notre vie, des effets visibles. C'est merveilleux que d'être pardonné de son péché, vous êtes d'accord? Ceux qui l'ont vécu, est-ce que vous êtes d'accord? C'est la chose la plus merveilleuse. C'est merveilleux de connaître la volonté de Dieu, de savoir quels sont les projets de paix que le Seigneur a formés sur nos vies, c'est merveilleux. Moi, le Seigneur m'a montré que j'allais le servir quand j'avais 19 ans, le Seigneur m'a montré clairement que j'allais le servir. Même si ça s'est passé des dizaines d'années après, mais le Seigneur me l'a montré et du coup ça provoquait de la joie. Alors que je voulais pas du tout le servir, mais le Seigneur a changé mon cœur et m'a montré tout cela. C'est merveilleux quand on connaît la volonté de Dieu. Mais, il y a un mais, il faut que ça ait une, qu'il y ait des changements visibles dans notre vie. Il faut que notre volonté aille dans le sens de la volonté de Dieu. Sinon, on est juste des illuminés, excusez-moi l'expression. On reçoit plein de choses de Dieu, mais on fait que en parler, mais on ne les vit pas. Mais Dieu veut pas ça, hein. Dieu veut nous donner. Dieu veut nous donner avec abondance, mais pour qu'on puisse après vivre et communiquer aux autres ce qu'on a vécu. Et c'est ça la puissance dans la prière. La puissance dans la prière, ce n'est pas d'avoir une voix forte qui prie le dimanche matin. Même si il y en a qui ont des voix fortes, il y en a qui en ont des moins fortes, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. La prière puissante, c'est celle qui dit « Seigneur m'a rempli, mais il faut que je vive quelque chose de plus. Il faut qu'il y ait une transformation. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ce n'est pas possible quand je prie pour quelqu'un avec qui je suis fâché que de ne rien faire. Ce n'est pas possible. Sinon, je ne prie pas avec puissance. Je prie de manière superficielle. Dites-moi, la prière du bout des lèvres, est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne chez vous ? Vous priez jamais comme ça, d'accord. Mais moi, j'ai remarqué que quand je prie du bout des lèvres, quand je suis pas impliqué dans la situation, mais il y a rien qui se passe. Mais quand je prie et que je dis Seigneur, je veux que les choses changent. Quand je prie que il y a une situation qui me fait mal et que je demande à Dieu son secours parce que je suis totalement impuissant, mais il y a des sentiments nouveaux qui sont créés. Quand on prie avec vérité, par exemple dans une situation où on est fâché avec quelqu'un, le Seigneur va nous pousser à nous réconcilier, va nous pousser à peut-être prendre le téléphone ou prendre la voiture et aller voir la personne et faire ce qu'il faut. La prière puissante, c'est une prière qui est active. Et en inversé, c'est dans Jacques qu'il est dit, la prière du juste, fervente du juste, a une grande efficacité. Littéralement, dans fervent, c'est la prière active, la prière agissante. On pourrait dire la prière visible. Vous comprenez cette prière qui va me pousser à faire quelque chose de concret. On peut faire de belles prières pendant toute notre vie, venir à l'église tous les dimanches matin, faire monter des louanges, des prières. Mais si ça ne change rien le lundi matin, le mardi matin dans notre vie, ben ça servira à rien. C'est ça que le Seigneur veut nous rappeler. La vraie prière qui a l'efficacité, qui a une puissance, qui laisse la puissance de Dieu agir, c'est cette prière qui est concrète. Seigneur, ce matin, peut-être je vais te prier de m'aider à être plus humble. Peut-être, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire quand la prochaine fois Dieu va me parler, je vais me soumettre à sa parole. Non ? Si ? Ça veut dire peut-être quand le frère va me reprendre parce que je me suis trompé, ben je vais accepter d'être repris. Ça veut dire, et c'est pas les choses qu'on aime, hein, mais ça veut dire que je vais avancer et me soumettre à la volonté de mon Seigneur. Je veux que le Seigneur me révèle ses paroles, mais ça veut dire que je vais passer du temps pour le chercher. Sinon, ça sert à rien. Mais le Seigneur nous promet cette grâce. Je l'exaucerai des cieux, mon peuple. Je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts. Je termine avec ce rappel des promesses de Dieu, conditionnées par ce qu'on vient de parler. Mes yeux seront ouverts désormais. Mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Oh, ça, on a envie de le vivre. Que le Seigneur ait toujours ses yeux et son cœur sur nos vies, que l'on soit dans ce lieu ou qu'on l'en soit dans nos maisons, que l'on soit sur la route, le Seigneur aura toujours ses yeux sur nos vies, parce que c'est plus un temple aujourd'hui, c'est le temple de son esprit, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, le Seigneur veut manifester sa présence sur nous. Mais il attend de nous que nous puissions faire ce qu'il faut. Qui ce matin veut dire, moi Seigneur, je veux à nouveau m'engager. Je veux re-signer le contrat. Je veux à ceci dire oui, Seigneur. C'est pas un si de peut-être, c'est une certitude. Je veux vivre ça. Parce que je sais que c'est bon. Parce que je sais que c'est le seul moyen pour que ma foi puisse aller de progrès en progrès. sur cette terre. Amen. On va fermer les yeux quelques instants. Je peux vous dire combien le Seigneur a appuyé depuis ce début d'année pour que je puisse vous citer ce verset qui est pourtant bien connu. Peut-être vous l'avez entendu des dizaines de fois ce verset dans des prédications. Mais je sais que c'est la volonté de Dieu de le partager pour cette église. Et le but n'est pas de dire que nous ne valons rien. Loin, loin de moi cette pensée. Le but c'est de réfléchir pour être de plus en plus près du Seigneur et pour que ses volontés puissent s'accomplir pour nous, pour nos familles, pour notre église, pour ce département, pour ce pays qui a besoin tellement de guérison. Ce matin, je vous invite vraiment à laisser l'Esprit de Dieu déposer quelque chose dans le plus profond de votre cœur. Et là où vous êtes à votre place, s'il y a un tiroir secret que vous n'avez pas encore ouvert, mais profitez dans ces moments de l'ouvrir devant Dieu. Pas besoin d'en parler à votre voisin, pas besoin de le dire à voix haute, mais devant Dieu, dans votre cœur, dites: Seigneur, tu vois, oui, il y a ça qui vient s'interposer entre ta faveur et ma vie. Seigneur, je suis peut-être dans le flou par rapport à ce que tu veux pour moi. Viens me montrer quelle est ta volonté. Mais je veux passer du temps devant toi, Seigneur. Seigneur, je veux qu'il y ait du changement dans ma vie. J'en ai assez de dire Amen tous les dimanches et que rien ne se passe de différent. Mais je veux vivre tes promesses concrètement. Le Seigneur va le faire. Simplement mettez votre foi en action. Appuyez sur ce verset. Éternel, je te prie pour ton peuple. Oui, tu nous parles comme à un seul homme, alors que nous sommes plusieurs, mais tu dis mon peuple. Et nous voulons, Seigneur, ne jamais oublier que tu es notre Dieu, que nous sommes ton peuple. Nous ne sommes rien tout seuls, mais ensemble nous sommes ton peuple et le temple du Saint-Esprit. Bénis, Seigneur, mes frères et sœurs. Viens combler de ta grâce. Viens accomplir tes volontés dans la vie de mes frères et sœurs. Permets que dans cette année, que nous puissions goûter à des bénédictions encore plus grandes que l'année dernière. Que nous puissions voir encore des choses plus fortes, des guérisons, des miracles, des prodiges. Seigneur, simplement par ta grâce, tu vois l'état de notre pays qui a besoin de guérison. Seigneur, utilise chacun d'entre nous. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes servantes, Seigneur, et nous voulons que tu puisses encore par ta présence nous remplir, nous submerger, nous révéler quelles sont tes volontés et nous donner la force de les accomplir, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Amen.